Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec aujourd'hui Jean-Louis Clément. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Clément, vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage que vous venez d'éditer. D'ailleurs, je n'ai pas le titre en tête précis, c'est
« Une vie de Barnave à l'usage du car éteint ».
Un livre d'histoire, sur...
Un peu plus que de l'histoire.
Oui, mais vous allez nous donner les raisons aussi de cette parution, parce que nous avons correspondu entre-temps, et vous aviez le désir d'émettre ce livre pour répondre et peut-être repositionner ce personnage d'histoire dans son contexte, et aussi peut-être quel parallèle pourrait-on en faire aujourd'hui avec la politique française notamment.
Il y a un intérêt d'abord, c'est que Barnave est mal étudié et c'est un enfant de Saillant à l'origine. Donc c'est une famille protestante qui a fait fortune à Saillant et qui s'est installée ensuite à Grenoble pour devenir une des familles les plus importantes de l'industrie et de la finance de la région, qui avait des relations avec la Suisse, etc. Et ce personnage a été assez peu étudié et l'objet, encore aujourd'hui, de controverses et de falsifications, même, on peut dire, carrément. On va y revenir, je pense.
On abordera ça pendant l'émission. Alors, ce personnage a agi très rapidement et est mort à 32 ans après avoir opéré tous ses engagements politiques.
Il a mené la grande vie, en fait. Il a vécu dans le super luxe à Paris. Il a côtoyé la haute bourgeoisie française. Son leitmotiv, c'était de se venger de la noblesse, de se venger de la royauté, qui étaient des freins à la finance et au développement de l'industrie. Et donc ça, c'est pratiquement son leitmotiv, hein, de début jusqu'à la fin.
En quelque sorte de la bourgeoisie aussi.
Bien sûr. Oui.
Voilà, c'est pour placer les mots comme je voulais les entendre. Et donc... Il y a quand même une certaine contradiction dans le personnage lui-même, puisque faisant partie d'une assemblée constituante, mais qui est respectueuse de la monarchie, en quelque sorte, et qui va à l'encontre aussi d'autres députés qui étaient plus vers une tendance républicaine. Donc là, j'aimerais bien savoir... Et il y a une question qui m'a interpellé, c'est que dans cette constitution dans laquelle il était présent, il était considéré plutôt sur la gauche de l'hémicycle. Et à partir du moment où la constitution est devenue républicaine, son positionnement s'est retrouvé plutôt à l'extrême droite.
Je vous corrige.
Oui.
La période qui nous intéresse, c'est la période qui va jusqu'en 1792.
Oui.
C'est une période où il est question, certes, de république, mais parmi des cercles intellectuels qui ne sont très peu représentés à l'Assemblée nationale, finalement. L'Assemblée constituante est une assemblée qui est beaucoup plus conservative que ce qu'on pense. Les élus qui ont été envoyés au départ de Romans, par exemple, ce sont surtout des bourgeois. Il n'y a pratiquement pas. Et des gens comme Robespierre, déjà, sont quelque part l'exception qui confirme la règle, si je puis dire. Mais pour en revenir à Barnave, il faut savoir une chose, c'est que ce monsieur a eu un rôle considérable. Il a, il a vécu le début, comment dirais-je, de la politique moderne. C'est-à-dire que avant lui, ils ont tout inventé. C'est-à-dire le débat parlementaire que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà comme ceci à cette époque-là, sous l'Assemblée constituante. Et c'était nouveau. C'était nouveau. Il faut savoir que les États généraux qui ont envoyé Barnave à l'Assemblée ne s'étaient pas réunis depuis 1614, je crois. Ce qui veut dire que c'était un événement et que la France tout entière s'est passionnée pour ces États généraux, aussi bien les ouvriers que les paysans, que les bourgeois, évidemment, puisqu'il s'agissait d'impôts, encore comme aujourd'hui. Il s'agissait d'impôts et tout d'un coup, vous aviez toute une série de franges de la population, dont le Carreta, et on pourra en reparler de ce qu'est le Carreta, qui se sont sentis tout d'un coup extrêmement concernés par ses finances et qui ont voulu participer à ce débat et donner leur point de vue par les cahiers de doléances en particulier. Et on peut dire que l'Assemblée constituante est pour prendre un terme que j'ai déjà utilisé dans mon précédent ouvrage, La corruption des regards, quelque part, par la corruption des regards, la bourgeoisie s'est accaparée le rôle dominant dans cette Assemblée. Et ensuite, pour comprendre la suite de l'évolution historique, c'est un combat entre ceux qui ont accaparé le pouvoir et ceux qui veulent dire leur point de vue, c'est-à-dire les trois quarts de la population, c'est-à-dire le quart état.
Et justement, on peut rappeler un peu le fonctionnement hein, de ce pouvoir. Il y a le tiers-État, donc, avec la monarchie, le clergé, et le troisième...
Alors, il faut revenir sur ces...
c'est une notion de base pour...
Alors, Henri Guillemin, qui est un peu un historien modique, qui a fait sa carrière sur la radio-télévision suisse, c'est d'ailleurs intéressant, a bouleversé un peu cette vision qu'on nous enseigne à l'école primaire et qui correspond à rien. En fait, il y a la royauté, le système féodal qui disparaît, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et la haute finance, et le quart-état. Alors, en pourcentage, le quart-état, ça représente trois quarts de la population. La bourgeoisie, elle représente pratiquement 5%. Et le reste, c'est partagé entre la noblesse et le reste, quoi, le clergé et les anciens féodaux qui sont en train de disparaître complètement. Voilà. Il faut comprendre une chose. Barnave a écrit dans ses mémoires quelque chose de fondamental et qui est d'une modernité assez incroyable. D'ailleurs, son rôle en 91 est loin d'être estimé à sa juste valeur. Il a été d'une des figures les plus importantes de la politique. Et il a participé à la création des partis bourgeois, tels qu'ils sont aujourd'hui, les partis libéraux, ce qu'on appelle libéraux, le centre, tous ces gens-là, toutes ces mouvances, les républicains, etc. Et il a écrit dans ses mémoires une chose extrêmement moderne. Il a dit, pour faire de la politique, il y a trois éléments qui sont les plus importants. Il faut avoir le contrôle de l'armée, défendre la propriété privée et s'occuper de l'opinion publique. Et là, ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà une stratégie de corruption des regards, comme je l'ai défini dans mon précédent ouvrage. Il s'agit vraiment, et dans mon livre, je le décris sur deux sujets principaux, en particulier le premier, la question de l'esclavage, et la seconde, tout aussi importante et même plus importante, c'est la fuite du roi. Voilà. Et donc, Barnave a été au centre de ces deux questions. Il a défendu d'abord les intérêts de la bourgeoisie esclavagiste, c'est-à-dire Bordeaux, etc., représenté par les Lamettes. Et il a défendu la royauté lorsque le roi est parti. Et il a défendu en particulier cette thèse absolument stupide, si on la prend comme ça, et qui n'a trompé pas beaucoup de personnes en France à l'époque. Il a défendu la thèse que le roi avait été enlevé ou que le roi était parti contre son gré. Or, le Carreta, en particulier, savait très bien que le roi avait l'intention de rejoindre ses troupes pour se retourner contre le peuple de Paris en particulier. Donc, il a développé cette thèse à l'Assemblée nationale où il était majoritaire. Et ça a provoqué un premier clash au niveau national, au niveau, je dirais, au niveau politique, avec le Carreta.
Pour vous, vous parliez justement de cette retranscription qu'on pourrait voir aujourd'hui, hein, de sa démarche. Qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger cet ouvrage sur ce personnage ?
La première des choses, c'est de voir le nombre de falsificateurs et le nombre d'admirateurs de Barnave qui oublient que Barnave a du sang sur ses mains, sur la conscience. En particulier à Saillant, vous avez un buste encore de Barnave à la mairie. Vous avez des peintures qui ont été faites dans les années 1900 en honneur de Barnave. Vous avez Jean-Pierre Rey, réputé spécialiste entre guillemets de la Révolution française et de l'Empire, qui enseigne au lycée de Die et qui commet cette année encore, dans les annales de la Drôme, un tissu de mensonges et d'omissions volontaires, à croire que M. Rey n'est pas républicain, parce qu'il défend carrément la monarchie constitutionnelle, en traitant dans son essai ceux qui sont contre la monarchie constitutionnelle, de doux illuminés, d'exaltés et d'anarchistes, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité politique de l'époque. Alors ça me laisse songeur quand je pense que ce monsieur enseigne dans un lycée. Ensuite, vous avez, pour reprendre un deuxième personnage qui m'est proche, c'est Maud du Grand, qui a écrit la Petite République de Saillant. Et dans la Petite République de Saillant, elle écrit que le roi et la reine ont été aidés par Barnave pour des questions humanitaires, ce qui est une falsification totale. Alors cette dame, qui se prévaut d'être ancienne journaliste de l'Humanité et qui a été fortement médiatisée nationalement pour son ouvrage assez médiocre, devrait un petit peu se retourner dans l'histoire et voir qui est réellement Barnave et ce qu'il n'a pas été. Elle a des antécédents, comme le fameux Thiers, le bourreau de la Commune, qui a commis aussi des falsifications énormes. Il y a tout un historique d'historiens faussaires à la solde, je dirais, de la bourgeoisie, quelque part.
Pourquoi, selon vous, cette persistance dans cette accaparation, dans cette usurpation de personnages et de son action ?
La première des explications, c'est que c'est une... Lorsque Barnave est passé devant le tribunal révolutionnaire, on l'a accusé de collusion avec la royauté. Ce qui a été avéré par la découverte de documents où il était prouvé qu'il y avait des contacts politiques avec la royauté pour justement maintenir le roi en place et créer une monarchie constitutionnelle en France. Et il a juré devant le jury qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec la royauté. Ce qui était faux et qui a été démontré aujourd'hui par la correspondance secrète avec la reine, qui a été avérée, non pas par un historien français d'ailleurs, mais une historienne suédoise, ce qui est un signe. Et depuis, c'est un grand silence radio avec des essais qui réapparaissent de temps à autre, où on injecte encore un peu de fausseté dans le débat. Par exemple, il y a eu un débat sur un colloque Barnave à Grenoble avec un professeur d'université, dont je ne me souviens plus le nom, ce n'est pas grave, qui a dit « Mais Barnave était un homme de gauche !» Alors là, je demande à voir, franchement.
Là où je reviens un peu sur le propos, la question que je vous pose en début d'émission, il y avait cet aspect de monarchie absolutiste et il se sentait, il était inclus dans la partie plutôt sociale, de gauche, et que si cette retranscription de la République qui a mis Barnave plutôt à droite, voire extrême droite, il y a un changement de paradigme qui
mais ce n'est pas un changement de paradigme. Oui. On a dit que un certain nombre de gens du peuple se sont laissés tromper par sa corruption des regards, c'est-à-dire par ses mots et par ses discours. Mais en réalité, il n'a jamais changé de position. Sa position était, il voulait que la France soit ce que la République, la Ve République a réalisé, c'est-à-dire que la France soit une monarchie constitutionnelle, avec peut-être, pourquoi pas, un nom de République, mais qui n'a de république que le nom. Dans la réalité, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on est loin d'être en république. Et donc, je dirais que Barnave serait aujourd'hui très macronien, il serait très, très, très proche de l'extrême droite aussi. Il discuterait volontiers avec l'extrême droite. Mais ce qui est important à comprendre, c'est le début d'une notion que Macron a repris lui-même aujourd'hui, et c'est très intéressant. Il a dit dans une interview à un journal, et ça a été repris par le monde diplomatique, il a repris cette notion de double nature du roi, et à son compte. C'est-à-dire que pour lui, le président de la République aujourd'hui a une double nature. Donc, à l'époque, c'est ce que disait Barnave. Barnave, il disait « le roi a une double nature ». Et lorsque le roi a fait sa fuite à Varennes, il a dit « comme homme, c'est médiocre ». On est bien d'accord, il a fait des erreurs. Mais comme roi, on a juré que la royauté était inviolable, il ne faut pas y toucher. Voilà. Et aujourd'hui, Macron dit, comme homme, je suis comme vous et moi, mais comme représentant de la France, je suis autre chose. C'est exactement la même chose. Et ça a été repris, cette notion de double nature, par les nazis, et par Heidegger en particulier. Il faut le savoir. Et tout ça est repris dans l'article du Monde diplomatique. Bon, tout ça pour vous dire que Barnave est avant tout l'homme, le défenseur de la monarchie constitutionnelle. Le roi est là pour faire semblant d'être roi, si je puis dire, et c'est nous qui tirons les ficelles, c'est nous qui faisons la politique. Nous, les financiers de la France, les bourgeois, les Necker et autres. Et tout ça doit rester soigneusement entre nous, et le Carreta n'a rien à dire. Et en gros, aujourd'hui, le Carreta, il n'a rien à dire non plus. Il y a un parallèle assez saisissant. Et lorsque le Carreta va vouloir suivre les intellectuels comme Robespierre et vouloir intervenir politiquement avec avec ses propres mots lors des événements de juillet 91... Et là, la réponse, c'est qu'on va tirer dans la foule. Une foule pacifique, faite d'hommes, de femmes et d'enfants, et dont le nombre de morts qui vont être répertoriés ne sera jamais communiqué, censuré. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de centaines de morts il y a eu, mais on peut dire qu'il y a eu autant de morts que de cartouches tirées. Donc, on peut faire le calcul, puisque la foule était dense et que ce sont des bourgeois armés, avinés, avec l'esprit de vengeance contre ce peuple qui voulait s'exprimer, qui sont rentrés dans la foule. La foule ne pouvait pas s'ouvrir, ils ont tiré. Et le seul reproche qu'on pouvait faire à cette foule, c'est d'avoir osé demander que le roi soit jugé démocratiquement et que toute la France décide le sort du roi. Or, on était aux antipodes de ce que voulait Barnave, qui considérait même que la démocratie était un superflu. Et on peut dire que ça n'a pas été dit assez clairement. Fin 91, il y a une tentative de coup d'État carrément antidémocratique de la part de Barnave et de ses amis. Le club des Jacobins est fermé manu militari. Or, c'était un des lieux en France où il y avait le plus de démocratie, où il y avait des débats, où le quart État pouvait s'exprimer. Et Barnave avait tenu à ce que garder le contrôle des sociétés de province affiliées aux Jacobins. Et il l'a perdu. C'est Robespierre qui centralisait après les informations de province et qui répercutait les informations parisiennes. Et on est en une époque, il faut savoir, où le quart État s'impassionne pour la politique. Et lorsque au mois de juillet, avant le massacre du Champ de Mars, l'Assemblée nationale va débattre des propositions de Barnave, c'est-à-dire d'amnistier le roi, toute l'Assemblée nationale est environnée de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui attendent des informations sur ce qui se passe. Et dans les tribunes populaires, distribuent des textes par les fenêtres pour dire « Monsieur un tel a dit ça, monsieur un tel a dit ça, il se passe ceci, il se passe cela. » Et les textes circulent dans la foule comme ça. Et lorsque les députés vont sortir, ils vont se faire injurier. Comment osez-vous amnistier un monarque qui va rejoindre son armée et qui a décidé de nous anéantir? Et là, qu'est-ce que fait Barnave? Il dit, on protège l'Assemblée nationale, on fait intervenir la troupe. Il demande à ce qu'il y ait la loi martiale. On n'est plus en démocratie, c'est la loi martiale, interdiction des journaux républicains et fermeture du club des Jacobins, devenu trop dangereux pour lui.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Je reviens un peu sur la corruption du regard. Ça, c'est aussi peut-être un outil dont il a utilisé.
Oui, alors, c'est très bien. Ça me fait rebondir sur la question de l'esclavage. Il s'avère que la position que défend Barnave, parce qu'il est dans un dilemme. Et quelque part, la bourgeoisie a été obligée, par la force des choses, de décréter liberté, égalité, fraternité. Ça a été une des premières mesures, un des premiers slogans de la Révolution. Et donc là se pose concrètement, qu'est-ce qu'on fait des esclaves? Et très vite, il y a un mouvement qui se crée de soutien aux esclaves en disant, les esclaves sont des hommes comme nous, et donc il faut les libérer de leur joug. Et Barnave va défendre une position qui est extrêmement intéressante de notre point de vue, qui a été soigneusement escamotée par nos fameux historiens, entre guillemets, Il dit « La France aime le sucre ». Bon. Si on supprime l'esclavage, plus de sucre. C'est un raccourci, comme on entend aujourd'hui M. Barnier nous dire si vous votez à mesure de censure, ça va être le chaos. Ça, c'est un classique de la corruption des regards. Ensuite, il dit, alors je propose une chose. Bien sûr qu'on est pour l'égalité de tous les hommes, en droit, etc. Alors, on propose une chose, c'est qu'on libère une partie des esclaves, et puis on libérera les autres. Et c'est là que la corruption des regards est. Barnave dit, sur quels critères on va libérer les esclaves? Eh bien, évidemment, sur la couleur de la peau. Et c'est là la grande escroquerie intellectuelle, et je dirais, qui pourrait traîner quelqu'un comme Barnave devant la Cour de justice de La Haye, aujourd'hui. Parce que les esclaves et les gens de peau, enfin, pas seulement les esclaves, d'ailleurs, ça touchait pas vraiment les esclaves, ça touchait surtout les créoles, les béquets, les qui étaient déjà libérés et qui pratiquaient eux-mêmes l'esclavage. Ça touchait essentiellement ces gens-là. Il s'agissait de ressouder les esclavagistes entre eux pour mieux mater les révoltes prévisibles des esclaves. Et c'est ce qui s'est réellement... Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un régime d'apartheid aux Antilles, comme on l'a vu en Afrique du Sud. Et ce régime d'apartheid... Même des créoles de couleur de peau claire, si je puis dire, étaient rejetés par les grands colons. Et d'ailleurs, l'oncle maternel de Barnave était un des chefs de ces grands colons qui vont rentrer en rébellion contre la... Et alors, cette position-là, qui est une position infecte, si on peut dire, hein, parce qu'en fait, elle préparait la répression contre les esclaves noirs de peau, si je puis dire. Et elle est tout de suite contestée en France par Brissot. Et la lettre de Brissot contre Barnave, c'est nommément Barnave qui est visé, dit « Mais enfin, monsieur Barnave, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous savez très bien comment ça se passe là-bas. Donc, libérer une partie des esclaves sur le critère de la peau, c'est une mesure de corruption des regards. Il ne le dit pas comme ça, mais il l'explique. Et cette lettre va faire le tour du royaume. Et Barnave va être obligé de changer sa position. Et là, tout d'un coup, la traite dont il parlait dans son discours va disparaître. Il va parler d'individus. Il va enjoliver la situation tout en continuant à rester sur les mêmes positions. Et il va, en 91, faire plusieurs volte-face. Et finalement, le résultat, c'est que le droit français ne s'appliquera pas aux Antilles. Et donc, la situation d'avant reste la même. Ce qui va... La situation va changer, mais pour d'autres raisons. C'est que les esclaves se révoltent et vont infliger de sérieux revers aux propriétaires terriens.
Selon vous, quel est l'intérêt de personnes aujourd'hui de se prévaloir de Barnave ou de défendre une certaine image de ce personnage ?
C'est défendre une certaine conception de l'histoire, une certaine vue de l'histoire qui est fausse. C'est-à-dire... Sur la question de la fuite du roi, pour la première fois, je dirais, pour la deuxième fois, la première fois, c'est les états généraux, les cahiers de doléances, qui ont été largement discutés dans toute la France. Et Barnave a été porté par cette vague. Dans le deuxième débat sur la fuite de Varennes, on n'est plus dans la même situation. Le Caritas veut s'expliquer, et là, et là, s'exprimer politiquement de manière indépendante. Et là, il remet en cause la monarchie constitutionnelle. Il met en cause tous les intérêts de la bourgeoisie. Et là, la bourgeoisie ne fait plus aucun cadeau. C'est net, c'est la répression, c'est la loi martiale, c'est la liberté. Et en plus, je rajouterai une chose. Barnabe fait passer une loi en 91, fin 91, en disant il y a trop de gens qui votent aujourd'hui. On va restreindre le droit de vote à ceux qui possèdent le plus. Et donc, on veut restreindre le droit de vote en plus.
Alors, à cette époque, je crois que le droit de vote était autorisé pour 4,5 millions d'électeurs hein, sur une population de 26 millions de Français.
Voilà. Et si on en suit Barnabe, eh bien, c'est plus que 2 millions qui voteraient, quoi.
Il y a cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais il y a aussi, dans les articles qui suivent, la notion de garantie de la propriété. Est-ce que ça, c'est pas un antagonisme ou même une contradiction avec la devise initiale ?
L'ambiguïté n'est pas encore levée. Elle sera même pas levée, je pense, par Robespierre. Elle sera levée avec la Commune, elle sera levée avec Marx, elle sera levée beaucoup plus tard. Mais pas beaucoup plus tard, c'est que 50 ans après, avec les premiers socialistes utopiques. C'est à partir de là qu'on va commencer à réviser l'histoire de France, si je puis dire, telle que certains voudraient la voir.
Le désir de ce livre aussi pour vous, c'est peut-être d'ouvrir un regard sur notre époque.
Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé. La Ve République n'est ni plus ni moins, si vous faites la comparaison avec les écrits de Barnabe, n'est plus ni moins que la réalisation de ses écrits. Même chose pour Napoléon. Le bonapartisme de Napoléon, on le retrouve... Bonaparte était un grand admirateur de Barnabe. Et il rêvait de réaliser ce que Barnabe, en se mettant lui à la place du roi. Toujours cette notion de double nature qui continue, qui reste encore très vivante.
D'ailleurs, on peut se rendre compte aussi, à travers le monde, de ces hommes qui sont au pouvoir et qui s'y installent sans limite. Et on parlait même à un moment, il y a quelques mois, peut-être d'un troisième mandat du président Macron, même si c'est impossible. Mais dans l'époque où nous vivons, peut-être que tout pourrait arriver, non ?
C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse... c'est donner la parole au caréta. Je préfère ce mot de caréta presque à cette notion de classe ouvrière qui a été trop galvaudée par Staline et ses comparses, et Poutine et compagnie. Et le caréta, ce sont des gens qui pensent, mais qui n'ont aucun droit de s'exprimer. Et le problème français aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à tous les niveaux. À Saillant, il n'y a pas de débat. La mairie de Saillant, par exemple, sur mes instances, avait mis dans sa déclaration pour être élue aux élections qu'elle s'engageait à chaque année, plusieurs fois, à avoir un débat direct avec le caréta, avec la population. Or, depuis le Covid, il n'y a pas eu une seule réunion de concertation, d'écoute, rien. Et voilà le problème que nous retrouvons. Comme si la mairie de Saillant avait une double nature. Ils sont des hommes sujets à beaucoup de choses, corruption peut-être, je ne sais pas. Et... double nature, nous sommes les représentants, donc nous sommes au-dessus de tout débat et tout. Et Barnabe, à ce sujet, écrivait dans sa correspondance secrète avec la reine des choses absolument passionnantes du point de vue de la corruption des regards. Il se lâchait, c'était secret. Et il expliquait en particulier la double nature du roi, le roi comme représentant de la nation, c'est parfait pour nous. Si vous avez quelqu'un, un intellectuel ou un journaliste qui dit, surtout les journalistes qui disent, comme Camille Desmoulins, qui était le principal touché, si un journaliste comme Camille Desmoulins dit « touche à l'intégrité du roi », au nom du roi représentant, on peut lui interdire de s'exprimer. C'est ce que dit textuellement Barnave à la reine, Marie-Antoinette, pour lui dire « vous voyez, on a des intérêts communs ».
Je reviens un peu sur ces doléances de la Constituante à l'époque et ces cahiers de doléances qui ont été aussi édités, enfin qui ont été produits par les assemblées à travers la France en 2019 dans le prolongement des Gilets jaunes, oui. Et qu'on a mis de côté, voire archivés, ça souligne justement, comme vous le disiez, ce manque de débat.
Absolument, mais ce qui s'est passé au moment de la fuite du roi, la foule se réunit contre l'avis d'ailleurs de Robespierre, qui voit un piège et qui dit « il ne faut surtout pas y aller, c'est un piège ». À ce moment-là, la gauche est divisée. Donc, le parti de Barnave va s'engouffrer là-dedans. Il le sait politiquement. Il a un flair extraordinaire, Robespierre. Et ils vont spontanément corriger les textes sur place qui a été fait par Brissot, qui dit « on veut un autre roi ». Et vous avez 50 000 personnes qui sont là, sur le Champ de Mars, et qui disent « on ne veut plus de roi ». Et c'est là où le bât blesse. Et ces gens-là signent une pétition. Il y a des cahiers remplis de signatures qui existent encore aujourd'hui. Hein. Il y en a certains qui ont été détruits, mais il y en a tout un certain nombre qui existent encore de ce jour-là. Et comme par hasard, la fusillade a lieu parce que les bourgeois veulent récupérer les signatures pour les détruire. C'est la même chose avec les cahiers de doléances. Ce qui est gênant, on le fait disparaître.
Le prétexte était, en somme, que certains noms étaient notifiés hein, dans certains cahiers et que par respect de l'anonymat des participants, c'est ce qui a été dit pour refuser
pour moi,
l'accès.
Pour moi, c'est un exemple de corruption des regards, tout simplement.
Voilà. Alors,
par exemple, quand je parle de Monsieur Jean-Pierre Rey, je lui ai proposé un débat contradictoire et je lui repropose un débat contradictoire. Moi, je suis pas historien de métier et je le revendique. Il y a un représentant, quelqu'un qui fait un peu le même travail que moi chez Blast, là, qui dit « je suis un exégète ». Bon, admettons que je sois un exégète, mais M. Rey doit descendre de son piédestal d'intellectuel, soi-disant, intègre, soi-disant, d'historien, soi-disant, et venir discuter des faits, de ce qu'il a écrit, de ce que j'ai écrit. Voilà où le débat doit être, par exemple. Or ça, moi, lorsque j'étais assaillant, que je menais campagne contre la démocratie participative, je leur ai proposé plusieurs fois, publiquement, un débat contradictoire sur l'exercice de la démocratie participative au quartier San Leonardo de Sao Paulo au Brésil, démocratie participative qui a duré 10 ans quand même. Or, il y avait une étude tout à fait détaillée d'un professeur d'économie de l'université de São Paulo, en collaboration avec le HESS, où il y a une étudiante en fin de cycle qui a écrit son doctorat sur ce sujet. Moi, j'étais prêt à discuter de tout ça. Ils n'ont jamais voulu. Pas de débat. On touchait au dogme. C'est les origines même de la corruption des regards, ça.
Sans pour autant être historien, vous êtes un passionné d'histoire, sur une période précise où vous avez plutôt un regard d'ensemble.
J'ai des sujets particuliers. Je m'intéresse à l'histoire particulière, qui me permet de dégager une vision un peu d'ensemble, vous voyez. C'est la même chose pour l'art brut, pour l'art naïf. J'ai beaucoup côtoyé des gens du Caretta qui pratiquent la peinture et j'en ai élaboré une théorie qui est assez différente d'ailleurs de celle de M. Jean Dubuffet. Mais on en reparlera à l'occasion.
Voilà, un vaste sujet pour un petit livre avec certainement beaucoup de dialogues, de débats à venir, si on peut l'espérer. Et puis, on peut peut-être préciser la maison d'édition hein, de cet ouvrage.
Oui, c'est le pas de l'homme, c'est qui était autrefois, qui a été jusqu'à un certain... Philippe, qui a été, qui est mon éditeur et qui a été longtemps à Die et qui est maintenant du côté de la Baule.
Un ouvrage qui sera disponible à la librairie.
Il est déjà répertorié à la Bibliothèque nationale. Il est sur Internet. Il est dans le fichier de tous les bibliothécaires qui peuvent le commander directement chez l'éditeur. Donc à Die comme ailleurs. Ce livre est disponible.
Merci beaucoup Jean-Louis Clément de nous avoir donné un peu de votre temps sur ce livre. Donc, décidément, j'ai oublié encore le titre.
Une vie d'Antoine Barnave à l'usage du Caretta.
Merci beaucoup Jean-Louis Clément et je vous souhaite une bonne soirée.
Et vous de même. Thank you.